Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Le Nord Kivu a mené avec succès sa première campagne annuelle de vaccination contre la poliomyélite. On compte plus de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans vaccinés, soit au-dessus des attentes. Satisfaction pour le programme élargi de vaccination PEV Nord Kivu. Ils reprennent enfin les cours. Eux, ce sont les milliers d'élèves du primaire et secondaire de la région de Nizi, en Ituri. Une rentrée scolaire consécutive à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette région, plusieurs fois en proie aux attaques des groupes armés, expliquent les autorités scolaires sur place. Et puis, l'Observatoire congolais du développement durable s'est réjoui du fait de l'accession des femmes à la tête de certaines institutions et entreprises publiques, mais il plaide pour la concrétisation de la politique de l'autonomisation de la femme congolaise. Pour en parler, nous recevons Modeste Kakanda, coordonnateur de cette organisation. Madame, Messieurs, bonjour. Plus de 2 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois ont été vaccinés contre la poliomyélite au Nord Kivu. Le coordonnateur du programme élargi de vaccination PEV dans cette province a présenté ces chiffres dans son rapport aux autorités. Ce rapport détaille le déroulement de la première campagne annuelle de vaccination qui s'est tenue la semaine dernière dans les zones de santé de la partie sud du Nord Kivu. Une semaine avant, cette campagne a été menée en faveur des enfants des zones de santé de la partie nord de la province. Docteur Batei salue la forte mobilisation communautaire qu'il estime être la clé du succès de cette campagne. Rosalie Zawadi nous en dit plus.
Du 28 au 30 août, puis du 4 au 6 septembre, le Nord Kivu a mené avec succès sa première campagne annuelle de vaccination contre la polio. Le docteur Hans Batei, coordonnateur du programme élargi des vaccinations PEV dans la province, salue les dépassements des attentes et félicite la forte mobilisation des parents qui a assuré les succès de cette initiative.
À ce jour, nous avons de bons résultats. Donc, nous avons vacciné plus de 100% d'enfants. Dans la partie nord également, on a vacciner tous les enfants, sauf les zones de Yéna et Mangroujipa où on n'a pas atteint tous les enfants. Dans la partie sud, on a aussi quelques zones qui ont commencé en retard pour des raisons logistiques et nous pensons que les ratissages continuent. Nous avons vacciné plus de 2 millions d'enfants, ce qui est déjà une bonne chose. Nous sommes à plus de 116%. La population est en train de galoper, donc on a même recommandé un dénombrement.
Le docteur Batei précise que les enfants qui n'ont pas pu être vaccinés lors de cette campagne seront rattrapés grâce à la vaccination des routines. Concernant les parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants, des efforts de sensibilisation seront menés pour qu'ils comprennent l'importance de les protéger contre la polio. Goma. Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Santé toujours. Du côté du Tanganyika, la zone de santé de Manono se mobilise pour la campagne de vaccination préventive contre la fièvre jaune. Cette campagne est prévue du 23 septembre au 2 octobre prochain. L'annonce a été faite hier samedi au cours d'un briefing de presse avec les médias locaux. Mais c'est quoi la fièvre jaune et quels en sont les symptômes? Docteur Patrice Sango, médecin chef de zone de santé de Manono, explique au micro de Paulin Munanga.
La fièvre jaune est une maladie qui est virale. Cette maladie est transmise par des piqûres, des moustiques qu'on appelle les Aedes. Et ces moustiques qui sont infectés vont transmettre la maladie à l'homme à travers des piqûres. Et cette maladie se manifeste par des maux de tête, des courbatures, la fièvre. Pourquoi on l'appelle fièvre jaune? Parce qu'il y a la notion de la fièvre et la coloration jaunâtre des muqueuses. Cette maladie peut évoluer vers des complications cardiaques, des complications hépatiques en rapport avec le foie et des complications rénales en rapport avec les reins. C'est une maladie très grave, très mortelle. Il n'y a pas un traitement spécifique contre cette maladie. Le traitement, c'est juste un traitement symptomatique. Alors, le meilleur traitement, c'est la prévention. Et la prévention passe par la vaccination. Il y a un vaccin qu'on appelle VAA, vaccin anti-amarile.
Merci de nous recevoir dans la province de l'Équateur. Ici, les enseignants de Mbandaka suspendent la grève qu'ils observent depuis la rentrée scolaire. La décision a été prise hier samedi au cours d'une assemblée générale de l'intersyndicale des enseignants. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer cette position. C'est notamment le paiement d'un complément de 50 000 francs congolais à chaque enseignant, tel que promis par le gouvernement. On écoute à ce sujet le président de l'intersyndicale de l'Équateur, François Mukadi Kachama, joint par Askin Zibia.
À l'issue de l'Assemblée générale de ce samedi 13 septembre 2025, relative à l'évaluation de la grève déclenchée depuis le 1er septembre 2025 sur toute l'étendue de la province de l'Équateur, jour de la rentrée scolaire 2025-2026, après débat et délibération, les enseignants décident à l'unanimité de suspendre la grève et de reprendre le chemin de l'école dès ce lundi 15 septembre 2025 et privilégie la mission de l'organisation d'identification des enseignants qui est fonction de l'augmentation salariale et paiement des NU et NP en s'alignant à la déclaration nationale de la camarade Cécile Tshiombo Kankolongo, secrétaire générale du CIECO.
Par ailleurs, en Ituri, c'est finalement demain lundi 15 septembre que des milliers d'élèves du primaire et secondaire sont attendus dans plusieurs écoles de la région de Nizi, dans le territoire de Djougou, pour la rentrée scolaire 2025-2026. Le responsable de la sous-division de cette entité, située à 35 km de Bounia, qui l'annonce, parle d'une rentrée scolaire rendue possible grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette région, plusieurs fois en proie aux attaques des groupes armés. Martial Kizabiamungu. Reportage.
Les écoles concernées par cette rentrée scolaire tardive sont celles situées sur l'axe Nizimabangadala ainsi que vers Igabarrière Lopa. Selon Apollinaire Mandier Loa Mandier, les responsables de la sous-division éducationnelle de Nizi, ces entités ont été les théâtres des affrontements entre les FRDC et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga, alliés aux assaillants des Zaïr. Pour lui, ces retours à l'école est consécutif à l'amélioration de la situation sécuritaire dans plusieurs villages de sa juridiction éducative, ce qui a permis les retours des déplacés dans leur milieu. Il appelle les parents à envoyer leurs enfants à l'école ce lundi 15 septembre pour leur éviter tout retard dans leur programme. Les commandants de FRDC dans cette région rassurent que des dispositions sont prises pour un bon déroulement des activités scolaires dans les entités concernées. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Restons en Ituri. Le complexe scolaire Jean-Marie de la Menée à Bounia mise sur le patriotisme pour former ses élèves. Les responsables exigent désormais aux parents d'acheter les vareuses de l'équipe nationale congolaise pour leurs enfants. Une initiative qui suscite à la fois adhésion et inquiétude entre fierté nationale et poids financier pour les familles. Le débat est lancé. Reportage de Jean-Claude Loki.
À Bounia, au complexe scolaire Jean-Marie de la Menée, les responsables de l'école exigent chaque année aux parents d'acheter les vareuses de l'équipe nationale de football pour leurs enfants. Jean de Dieu Abeka, directeur des études.
Le salaire permet de connaître les différentes couleurs qui se trouvent sur les drapeaux et ça fait du bien.
Mais sur le terrain, les avis sont partagés.
Quand tous les enfants portent ça comme ça, ça montre l'unité, l'union, tous derrière notre pays.
Pour d'autres, cette mesure représente un coût supplémentaire difficile à supporter.
C'est trop demandé. Beaucoup de parents n'ont pas de travail.
Les élèves, eux, semblent enthousiastes à l'idée de porter leur couleur du pays.
Maeva, un cima safari.
Ça te fait quoi quand tu portes ça?
Je suis fière de mon pays, la République démocratique du Congo.
À Bounia, la vareuse dépasse le simple maillot de foot. Elle devient un outil d'éducation civique et un symbole de fierté nationale. Bounia, Jean-Claude Loki, Guinée, Radio Capi.
Autre nouvelles, l'intégration de la dimension genre s'est faite non sans difficulté dans certaines provinces. Les ministres provinciaux en charge du genre ont été invités hier à présenter chacun dans sa province un état des lieux de cette situation et proposer des pistes de solutions y afférentes. Ils l'ont démontré hier samedi au cours des travaux de la 8e édition du Forum des ministres et chefs des divisions provinciales en genre, en charge du genre, forum qui se clôture ce dimanche à Mbujimayi. Esther Ndalafina pour le reportage.
Dans la province du Haut-Katanga, par exemple, la ministre provinciale en charge du genre a salué la construction d'un deuxième centre intégré de la prise en charge des cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Valériane Oumba sollicite cependant la prise en charge des agents de son ministère par le gouvernement.
Vraiment, c'est un pari gagné pour la province du Haut-Katanga. La province a recommandé au gouvernement de multiplier les rencontres entre gouverneurs et les gouvernements centrales puissent revoir les problèmes des mécanisations des agents ou fonctionnaires à la division du genre. Beaucoup n'ont pas encore leur numéro matricule.
Dans la province du Haut-Lomami, le ministre provincial du genre, Adelar Oumba, est revenu sur la présence des groupes armés qui empêchent l'intégration du genre.
Les territoires de Malimbankulu et celui de Bukama, c'est dans ces deux territoires où il y a même l'exploitation minière, les exploitations sexuelles des jeunes filles et même des enfants. Mais lorsqu'il y a des conflits armés, il y a des conséquences sur le plan genre. Nous devons d'abord avoir d'infrastructures capables d'accueillir tous ces cas et les traiter.
Signalons qu'à l'issue de ces travaux, une feuille de route sera validée pour faire avancer l'intégration du genre dans tous les domaines en RDC. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, en Ituri, des centaines de filets de pêche à mailles prohibées ont été incinérés hier samedi par les autorités locales à Chomia. Nous sommes au bord du lac Albert, à 65 km de Bunia, dans le territoire de Djougou. C'était en présence d'un magistrat du parquet de grande instance parti de Bunia. L'objectif, selon les autorités, est de décourager la pêche illicite qui détruit les ressources halieutiques du lac Albert. Reportage de Martial Kiza, rendu par Jean Gado.
C'est depuis plus d'un mois que l'unité de surveillance lacustre, avec le concours des services de sécurité, est à la recherche des filets prohibés utilisés par certains pêcheurs. Il s'agit, selon les autorités locales de Chomia, des moustiquaires et autres filets à petite maille qui sont utilisés pour attraper de tout petits poissons appelés frétins. Une pratique qui, selon les autorités, ne permet pas la reproduction des poissons et contribue à la disparition de plusieurs espèces aquatiques dans le lac. Jean-Henri Kakura Unjoka, de l'unité de surveillance lacustre, indique que l'utilisation de ces filets viole la réglementation en vigueur sur la pêche en RDC. Il rajoute que cette incinération doit interpeller les pêcheurs à faire preuve de responsabilité pour la protection des écosystèmes aquatiques. Rappelons que la pêche constitue la principale activité économique locale des communautés riveraines.
Merci de nous recevoir à Matadi, au Congo central. Ici, nous apprenons que l'accès au pavillon 7 du marché Mvoidou est actuellement difficile à cause d'une conduite d'eau abîmée. Cette situation dure depuis plus d'une année. Les vendeurs et vendeuses s'en plaignent. Leurs activités tournent au ralenti, disent-ils. Reportage de Nana Plurish Mambo.
C'est en plein milieu du marché Mvoidou, au pavillon 7, en allant précisément vers l'abattoir, que cette conduite d'eau de la régie des eaux fait couler beaucoup d'eau. D'après ceux qui ont des étalages dans ces pavillons, cette fuite existe depuis plus d'une année. Les eaux qui ruissellent ont non seulement détruit la voie d'accès au pavillon 7, mais ont également fragilisé un dépôt se trouvant dans sa trajectoire. Les passants en ont marre. Ils ne savent plus accéder aux marchandises étalées. Les vendeuses qui voient les clients passer au loin s'en plaignent.
Nous sommes au marché Mvoidou. Ce trou a fait presque 2 ans. Nous nous sommes plaints auprès du comité du marché, mais sans réponse. Malheureusement, ces eaux ont fragilisé une maison. Mais si c'était le robinet d'un tiers qui n'a pas payé la facture, ils allaient venir couper l'eau. À notre tour, nous souffrons. Les clients ne savent même pas accéder pour acheter nos marchandises.
Contacté, le directeur régional de la régie de distribution d'eau, Théodore Sokratka Beangandou, promet d'instruire son équipe de dépannage pour réparer les tuyaux défectueux. Matadi, Nana Purish Mambu, Radio Okapi.
Le gouvernement congolais a finalement attribué plus de 60 numéros matricules au personnel de l'Institut supérieur des statistiques, ISS Maniema, annonce le directeur général de cette institution. Selon ce dernier, ceci vient résoudre un sérieux problème social dans son institution. On écoute à ce sujet le chef des travaux Issa Balinyembo au micro de Florence Kizalonga.
En tant qu'établissement public, nous avons effectué un voyage officiel à Kinshasa où nous sommes revenus avec plus de 60 numéros matricules. Plus de 47 agents ont touché déjà leur prime institutionnelle. Et moi-même, je reviens avec moi plus de 67 numéros matricules et il y en aura encore 50 agents qui vont toucher leur salaire de base. Et il y a encore 8 chefs de travaux qui seront promis. Comme on a l'habitude de dire, un ventre gris n'a point d'oreille. On devrait que passer en action pour ces grandes réalisations qui entre dans l'intérêt communautaire de toute institution. Alors, à la réaction de la recherche, nous avons pu signer le partenariat avec l'Institut pédagogique national auquel nos étudiants et nos personnels scientifiques vont commencer à poursuivre les cours de troisième cycle. D'ici là, l'UPEN va nous envoyer une délégation qui va lancer l'école doctorale à l'Institut supérieur des statistiques et aussi l'ISS Kinshasa auquel nous avons encore signé un partenariat avec elle, de manière en sorte que l'ISS ait ses propres personnels académiques selon l'engagement et les esprit de détermination que chaque personnel scientifique va manifester.
Actualité internationale.
Nous sommes au Burkina Faso. Le gouvernement dirigé par des militaires prend la décision de rendre gratuits les visas pour tous les ressortissants des pays africains. Décision prise lors du dernier Conseil des ministres. La seule condition pour les Africains qui souhaitent se rendre au Burkina Faso est de remplir un formulaire en ligne via le portail www.visaburkina.bf et d'attendre l'examen de leur demande de visa avant validation. Le président américain Donald Trump estime que la guerre entre la Russie et l'Ukraine prendrait fin si tous les pays de l'OTAN cessaient d'acheter du pétrole à la Russie et imposaient à la Chine des droits de douane de 50% à 100% sur ses achats de carburant russe. Le message de Donald Trump sur son réseau social fait suite à une conférence téléphonique vendredi avec les ministres des Finances du groupe des 7, un forum réunissant les démocraties industrialisées.
L'invité.
L'Observatoire congolais du développement durable, OCDD, dit noter quelques avancées significatives, notamment l'accession des femmes à la tête de certaines institutions et entreprises publiques, mais il regrette cependant que les femmes paient le lourd tribut de la pauvreté, du changement climatique et des conflits armés. Ceci est contenu dans son rapport sur l'application de la politique du genre et de la parité en RDC, publié le jeudi 11 septembre. Le coordonnateur national de l'Observatoire congolais du développement durable, Modeste Kakanda, s'entretient à ce sujet avec Jean-Marc Matouaki.
Monsieur Modeste, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Marc.
Vous venez de publier un rapport sur l'égalité des sexes en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui ressort de ces rapports?
Effectivement, ce rapport s'inscrit dans le suivi et examen de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, plus précisément de l'UDD5, sur l'égalité des sexes. Vous savez, la question d'égalité des sexes, c'est une question transversale. Donc, au-delà de l'UDD5, ça influence ça des synergies avec presque l'ensemble des ODD.
Quels sont les résultats enregistrés durant cette enquête?
Ce qui ressort globalement de ces rapports, c'est que nous mettons en avant les résultats, les progrès que la RDC a enregistrés en ce qui concerne l'égalité entre les sexes, au-delà des progrès, mais aussi des défis que les pays font face par rapport à cette question-là. Et c'est une sorte d'outil de prise de décision pour les dirigeants. Il faudrait que nos dirigeants prennent des décisions, que les décisions soient basées sur des preuves fiables, sur des données probantes et pour plus d'efficacité, quoi. Donc, en quelque sorte, ce rapport vise à ça. Pour ce qui est des résultats enregistrés durant toute la période depuis l'adoption des ODD en 2015, c'est qu'il faut noter que la RDC fait face à des défis très critiques dans ce qui concerne l'égalité des sexes. Vous savez, les pays, il y a des domaines pour lesquels on a enregistré des progrès, notamment dans le domaine politique. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui a 32% de femmes. Ce sont des progrès. C'est là pour la première fois depuis l'indépendance de ce pays qu'on a 32% de femmes au gouvernement. C'est un progrès majeur à mettre en avant et nous avons mis ça en avant dans ce rapport. Il y a aussi beaucoup de progrès qu'on a enregistrés dans plusieurs domaines, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inégalités. Les femmes sont encore défavorisées dans beaucoup de secteurs, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit des questions d'emploi. Il ressort globalement des grandes inégalités de sexe. Par exemple, c'est pour illustration, il faudra par exemple voir aux examens d'État aujourd'hui, il y a moins de quatre enfants servis sont des femmes à l'examen d'État, finalistes plutôt, examen d'État. Il y a des questions, par exemple, des questions d'abandon scolaire. Beaucoup de filles abandonnent l'école par rapport aux garçons. Il y a aussi des questions, par exemple, d'accès aux services sociaux de base, qui créent aussi beaucoup d'inégalités. Par exemple, pour ce qui est de l'accès à l'eau, on a démontré que oui, enfants servis qui sont chargés de chercher de l'eau dans les ménages sont les filles, ce qui crée des disparités entre les sexes. Ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs résultats qui ressortent de ces rapports et qui devront servir dans l'élaboration des politiques publiques afin d'endiguer les inégalités entre les sexes. Parce que ces inégalités, en fait, renforcent les caractères sexo-spécifiques de la pauvreté et ce qui nuit au développement durable de la République démocratique du Congo. Il y a des avancées, mais les défis sont encore critiques. Il faudra mettre en place de bonnes politiques, des politiques innovantes pour apporter, pour endiguer, pour apporter des solutions durables sur ces questions d'inégalité de sexe, pour faire en sorte que les pays s'inscrivent dans la trajectoire des ODD, parce qu'aujourd'hui, on n'a que 5 ans pour atteindre les objectifs de développement durable. Et au regard des résultats qui ressortent de ces rapports, il y a encore beaucoup de défis, beaucoup de questions pour lesquelles l'attention devait être portée pour enregistrer des progrès. Et j'invite toutes les personnes et pour le développement des RLC de s'approprier ces rapports, parce qu'il est aujourd'hui démontré que si les pays n'arrivent pas à exploiter les potentiels économiques, sociaux des femmes, on ne saura pas enregistrer des progrès pour atteindre les ODD et donc un développement inclusif et qui ne laisse personne pour compte.
Quels sont, selon vous, les obstacles qui empêchent la République démocratique du Congo de promouvoir une politique active et pérenne du respect du genre et de la parité?
Pour ce qui est des obstacles, les obstacles sont nombreux. D'abord, il y a un obstacle le plus critique, c'est le financement. Mettre en place des politiques publiques pro-égalité, si je peux appeler comme ça, requiert des ressources significatives. Or, le pays aujourd'hui n'a pas toujours des ressources à la hauteur des besoins, parfois urgents et conquérants dans plusieurs domaines. Donc, il faut mobiliser des ressources à la fois nationales, mais aussi internationales pour répondre à des questions d'égalité entre les sexes. Parfois, quand on parle d'égalité entre les sexes, les gens croient toujours que c'est dans les domaines politiques, mais c'est dans les domaines de la santé, de l'alphabétisation, de l'éducation et dans le domaine de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, il est montré que les femmes, par exemple, dans l'agriculture, avec les réchauffements climatiques, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus impactées que toute autre personne.
Monsieur Modeste Kakanda, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Le coordonnateur national de l'Observatoire congolais du développement durable répondait aux questions de Jean-Marc Matouaki Mofelele. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.